Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et bien après ce débat sur le nucléaire, nous avons écouté trois chansons. Nous avons écouté Eric Frasiak, Bure sur Atome. Nous avons écouté Hubert Félix Thiéfen, Alligator 427. Et là, à l'instant, c'était HK et les Saltimbanques. Fukushima, mon amour. Le débat suivant est en train de se préparer. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Eh bien, je vous donne les micros tout de suite. C'est parti.
Voilà. Bon, eh bien, nous allons entamer le débat suivant qui est intitulé d'une manière un peu provocatrice, mais vous verrez que ce n'est pas tant que ça. Quand les communistes flinguaient les anarchistes, l'histoire de la Grange aux Belles par Sylvain Boudouc. Alors Sylvain Boudouc, on te remercie d'être là. Et bon, tu es plutôt connu comme historien maintenant et on t'entend souvent à la radio, n'est-ce pas? Tu accompagnes le mouvement libertaire, notamment la Fédération anarchiste, depuis de nombreuses années. Et voilà, donc tu t'es complètement... on est content que tu sois là, quoi, en gros. Et puis, je vais te demander de présenter un peu ce livre qui s'intitule « Le meurtre à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes », paru aux éditions du CERF. Il n'y a pas très longtemps, voilà.
Alors, c'est un ouvrage qui a accompagné une recherche au long cours sur cet événement qui était connu dans les milieux libertaires depuis un certain nombre de décennies, puisque par exemple, Mépicret, dans ses mémoires, évoque l'événement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir accès aux archives de police sur l'enquête. Et donc, au-delà des soupçons qui pesaient très lourdement sur un certain nombre de personnes, l'enquête de police permettait d'affiner un certain nombre de points et donc d'en faire finalement un livre. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça a été de construire ce livre, justement, non pas en faisant juste un livre d'histoire qui aurait été finalement relativement bref, mais comme il y avait une enquête policière, essayer de lui donner un tour, je dirais pas de roman policier, mais essayer de lui donner un tour un peu avec un fil narratif qui reprendrait les principaux éléments d'une enquête de police et d'essayer de restituer aussi ce qui se passait jour après jour dans les temps qui ont suivi ce drame entre guillemets de la Grange aux Belles.
Est-ce qu'on pourrait commencer par
très
connu dans le mouvement libertaire, mais
alors
je
qu'est-ce qui s'est passé?
Libertaire n'a pas que des anarchistes comme auditeurs.
Alors j'allais venir à qu'est-ce qui s'est passé en fait le 11 janvier 1924. Il y a un meeting du Parti communiste et les syndicalistes du bâtiment principalement décident d'aller porter la contradiction au meeting du Parti communiste au motif que ce qui se passe à la Grange aux Belles, enfin au motif que la réunion publique qui est organisée à la Grange aux Belles est une réunion électorale et la rue de la Grange aux Belles à ce moment-là est un local syndical. Donc c'est une atteinte pour ces syndicalistes et pour un certain nombre de ces libertaires au principe d'autonomie du syndical par rapport au politique. Et donc, qui décide d'aller faire la bronca. Bronca sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Toujours est-il que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, dans la salle, il y a des coups de feu qui sont tirés. Et on relève du côté, dans les rangs libertaires, on relève deux libertaires qui sont morts sur le coup. Donc tout l'objet du livre a été d'essayer de voir comment on en était arrivé là et quelle a été ensuite l'enquête qui a permis qui permet d'arriver à un certain nombre de conclusions sur la volonté du service d'ordre du Parti communiste de faire feu. Alors après reste un débat, est-ce que c'est intentionnel? Dans ce cas-là j'aurais appelé ça assassinat à la Grange aux Belles ou est-ce que c'est volontaire, mais la volonté de te tuer n'était pas présente, et ça devient un meurtre en termes de qualification juridique. Voilà. Donc ça, c'est l'objet du livre. Après, je remonte bien avant pour essayer de replacer tous ces éléments dans le cadre des débats autour de la violence révolutionnaire, de l'affrontement entre syndicalistes libertaires, syndicalistes communistes, syndicalistes révolutionnaires et syndicalistes tout court. D'abord dans la CGT, puis dans un deuxième temps, il y a une scission syndicale qui va donner naissance à la CGTU. CGTU où justement on retrouvera cet affrontement entre deux visions du syndicalisme, une plus ancienne marquée par la charte d'Amiens et une seconde marquée par une nouvelle vision du syndicalisme, qui est le syndicalisme communiste, dans lequel le parti impose son primat, enfin l'Union soviétique puis le Parti communiste français impose son primat sur un certain nombre de décisions. Et donc tout l'objet était à la fois de recontextualiser par rapport à la violence révolutionnaire, de montrer le climat de tension dans lequel les événements se déroulaient, et dans un dernier moment de retracer cette enquête et de montrer comment les forces de l'ordre, d'une part, vont commencer à voir qu'il y a un problème, enfin constater qu'il y a eu deux morts, et donc comment la police va mener une enquête à laquelle elle n'aboutira pas complètement, et comment de part et d'autre syndicalistes anarchistes d'un côté et communistes de l'autre se renvoient
non pas la balle,
mais se renvoient la responsabilité de ce qui se passe, avec une réalité qui est que, sans dévoiler un certain nombre de choses, on sait que c'est pas les anarchistes qui ont tiré sur les communistes, puisque, comme le syndi le souligne le sous-titre.
C'est un sous-titre,
mais bon. Donc, alors, on peut peut-être, dans ce cas-là, revenir sur les premiers temps de cette histoire. Donc, il faut remonter. Alors, on pourrait déjà remonter déjà à la question de la violence révolutionnaire, qui n'est pas la même en fonction des orientations politiques. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des militants tous ces militants sont partisans de la violence. Après, reste à savoir comment ils entendent la notion de violence. C'est deuxième chose, de la conquête du pouvoir, voire même de la conquête ou de la non-conquête pour un certain nombre d'entre eux du pouvoir, et juste du basculement vers une révolution. Donc c'est... Il y a ce premier aspect-là, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend les milieux libertaires, il y a un certain nombre de libertaires qui ne sont pas du tout hostiles à l'utilisation de la violence pour mettre à bas ce qu'ils appelaient le capital ou l'ancien régime. Mais cette violence ne doit pas s'exercer avec le principe d'une conquête du pouvoir d'État et de la conquête de l'appareil répressif, d'appareil répressif, puisque l'objectif est de détruire immédiatement les systèmes répressifs. Et de l'autre côté, on a plusieurs événements, mais notamment avec la prise du pouvoir par les bolcheviks et les débuts de la... à la fois de la révolution russe et donc de cette conquête du pouvoir, un nouveau groupe qui apparaît, qui génère dans un certain nombre de milieux une nouvelle forme d'utopie révolutionnaire, où là il ne s'agit plus de renverser le régime, mais de prendre le contrôle de l'appareil étatique pour instaurer ce qui s'est appelé pendant très longtemps la dictature du prolétariat, prolétariat incarné par un parti qui était le parti communiste, le parti en URSS, le parti communiste d'Union soviétique, les autres partis communistes dans le monde qui espéraient à un moment ou à un autre pouvoir avoir la même démarche. Donc on est dans cette confrontation-là, confrontation qui est rendue encore un peu plus compliquée parce que Au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a une grève générale d'importance qu'on appelle la grève des cheminots de 1920. Grève des cheminots qui met en quelque sorte un terme à un vieux mythe qui existait dans les mouvements syndicaux de tentative de renverser le pouvoir, de détruire le pouvoir par cette grève, ce qu'on a appelé longtemps le mythe de la grève générale, alors peut-être parfois insurrectionnelle et expropriatrice, en tous les cas, grève qui aurait paralysé complètement le système économique et social dans les sociétés capitalistes. Et cette grève des cheminots, pour de multiples raisons que je ne vais pas exposer ici, est un échec. Et du coup, toute une partie des syndicalistes commence à se dire il faut se tourner vers la nouvelle forme de prise de pouvoir qui est incarnée par les bolcheviks. Dans le mouvement syndical, il y a deux options qui se présentent. Une première option qui est de dire l'issue que proposent les bolcheviks, on est en 1921, on est déjà au moment de Kronstadt et on a déjà les Kronstadt étant une révolte populaire massacrée par le parti État communiste en Russie. Donc on est après la révolte de Kronstadt et une grande partie des syndicalistes disent non, ce n'est pas la solution. Les minoritaires qui sont qui se sont rassemblés dans ce qu'on appelle des comités syndicalistes révolutionnaires, ces minoritaires qui mêlent pro-bolchevique, libertaire, syndicalistes de diverses obédiences forment un courant dans la CGT et tentent de prendre le contrôle de la CGT, ce qui n'aboutit pas. Ils sont entre guillemets exclus ou démissionnaires puisqu'ils ont formé ce qui était interdit normalement par les statuts de la CGTU, c'est-à-dire pas des fractions réellement, mais ce qui s'est appelé des groupes syndicalistes révolutionnaires. Des comités syndicalistes révolutionnaires, pour être précis sur l'expression, et ces comités syndicalistes révolutionnaires, selon leur terminologie, cherchaient à noyauter la CGT. Arrive un congrès qui se passe relativement mal en 1921, dans lequel on a des affrontements entre syndicalistes réformistes ou syndicalistes majoritaires dans la CGT et minoritaires, au point qu'un libertaire bien connu pour son pacifisme sort son pistolet et tire des coups de feu en l'air. Ce libertaire s'appelle Louis Lecoing.
Très connu pour son pacifisme.
Très connu pour son pacifisme à partir d'une certaine date. Avant, il était nettement moins. Et donc, Lecoing tire des coups de feu en l'air, ce qui a eu le temps. Alors, en l'air et à blanc. Ce qui quand même change la nature du. Même s'il était quand même armé, mais ça change la nature de ce qui peut se passer. Enfin, ça peut expliquer un certain nombre de choses pour la suite. Donc, on a ce premier événement et suivi d'un deuxième. Suite à ce congrès, de la mise à l'écart de la minorité syndicaliste révolutionnaire qui comporte de multiples tendances, minorité syndicaliste révolutionnaire qui fonde la Confédération Générale du Travail. Comme il y a une scission, il faut se qualifier et donc ils sont unitaires. Donc ils sont pour le rassemblement, même si c'est une scission. Donc là, on est en fin 1921, début 1922. C'est donc la naissance de la CGTU. CGTU dans lequel on va retrouver un affrontement de nature un peu différente pour soit le développement d'un syndicalisme de type charte d'Amiens, esprit d'Amiens, dans lequel les partis politiques n'auraient pas voix au chapitre dans les prises de décision, et une deuxième vision qui est majoritaire, qui devient très rapidement majoritaire dans la CGTU, donc qui représente un alliage entre des syndicalistes révolutionnaires mais pro-bolcheviques, donc qui s'expriment dans le groupe de la vie ouvrière, et puis un certain nombre de militants du Parti communiste. Donc là, on est entre le mois de janvier 1922 et le mois de juillet 1922. La majorité au congrès fondateur de la CGTU de 1922 à Saint-Étienne, faite de cet alliage donc, que je viens d'évoquer entre syndicalistes communistes et syndicalistes révolutionnaires pro-bolcheviques, est très majoritaire au congrès, alors, suite à une entente, mais dans les faits, quand on refait une comptabilité, il n'y a pas de photo, en fait. Hein, il y a une très large majorité pour ces militants, alors même si à quelques endroits, ils ont pu effectivement prendre le contrôle de certains syndicats par des moyens, on va dire, extra-syndicaux, la statistique globale, ce qu'on prend l'ensemble des réunions, montre qu'ils étaient... ils étaient très largement majoritaires. Donc ça, c'est le premier temps. On est après le congrès de Saint-Étienne. La cohabitation entre les deux courants continue tant bien que mal. Les majoritaires ratifient l'adhésion à une internationale qui s'appelle l'Internationale syndicale rouge, qui vient d'être recréée à Moscou l'année précédente, mais à laquelle la CGTU n'avait pas encore adhéré. Ils adhèrent à l'automne 1922 et ça continue d'envenimer les relations entre les différents groupes syndicalistes ces conflits de tendance se poursuivent tout au long de l'année 1923 avec un climat de tension qui va crescendo, à savoir que de plus en plus dans les réunions, les militants ont tendance à s'invectiver, à se donner quelques noms d'oiseaux divers et variés, à même se menacer, par exemple, on peut le dire dans un des congrès, donc le congrès suivant, qui est le congrès de Bourges à la fin de l'année 1923, qu'un militant a été menacé, un militant liberté a été menacé par un militant communiste en lui disant « des gens comme toi, ça se descend à coup de Browning ». Il y avait donc une ambiance tendue. Il faut quand même rappeler que de l'autre côté, ce n'était pas non plus des enfants de cœur et que un certain nombre d'entre eux étaient prêts à dire que s'il fallait, ils utiliseraient la dictature de la trique, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à utiliser des coups de bâton pour imposer leur point de vue aussi. Il faut relativiser. On est quand même dans une atmosphère très tendue, dans une atmosphère assez survoltée par moments. Et donc le deuxième congrès de la CGTU qui se tient en 1923 vient traduire cette atmosphère assez survoltée d'affrontements entre deux tendances pour schématiser. Arrive le début 1924 et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, le Parti communiste veut tenir une réunion publique dans les locaux de la rue de la Grange-Belle. Alors, pourquoi est-ce un problème ? A priori, normalement, ça ne devrait même pas être un problème puisque les locaux de la rue de la Grange-Belle sont les locaux de la CGTU, les locaux nationaux de la CGTU à ce moment-là, après avoir été les locaux de l'Union des syndicats de la Seine jusqu'en 1921. Les locaux syndicaux peuvent être loués, y compris à des partis politiques. Le problème, c'est que là, c'est plus réunion d'un parti politique, ça devient un meeting électoral. Et c'est considéré comme par la minorité de la CGTU comme une atteinte aux principes syndicaux et notamment au principe de l'indépendance du syndicalisme, qui est que, selon les termes de la Charte d'Amiens, le mouvement syndical ne doit pas se faire dicter son attitude par les partis politiques ou les sectes philosophiques. Donc on se retrouve dans cette situation extrêmement tendue. Je sais par ailleurs qu'à ce moment-là, le Parti communiste a commencé... par deux facteurs, a commencé notamment dans le monde des cheminots à organiser un propre service d'ordre avec enfin plus qu'un service d'ordre, avec des militants qui sont armés pour tenter d'épauler un mouvement qui est en train de se dérouler en Allemagne, qu'on appelle la révolution allemande. Alors ce mot, ce sera un échec en Allemagne, mais toujours est-il que l'Internationale communiste et l'Internationale syndicale rouge avaient demandé aux militants de passer à une autre dimension de l'engagement. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, on voit également que ce même phénomène se produit chez les militants issus des jeunesses communistes. Et arrive donc le 11 janvier 1924 où, après avoir été annulée une première fois, la réunion a finalement lieu. Le matin même, la minorité syndicale appelle ses militants à faire, entre guillemets, la bronca, en tous les cas, à perturber le meeting du Parti communiste. Et le Parti communiste, qui est dirigé à ce moment-là par Albert Train. Alors, je vous explique qui est Albert Train en deux petits mots. Albert Train, c'est un ancien instituteur devenu lieutenant dans l'armée, enfin capitaine dans l'armée, et qui a une réputation d'être extrêmement autoritaire, extrêmement cassant, et qui est partisan de l'application d'une discipline de fer. Et Albert Train a donné comme consigne aux militants de ne pas se laisser faire et est entouré d'un certain nombre de personnes qui sont là pour faire le service d'ordre. Service d'ordre qui n'est pas dans la simple protection de la tribune, mais qui a pour objectif de repousser les agitateurs potentiels. Ouais. Donc le meeting commence. Alors dans le livre, je donne plusieurs sources qui donnent des interprétations du meeting un peu différentes. Même si en lisant puisqu'un commissaire spécial était, donc un policier des renseignements généraux était là, était présent, comme c'était le cas dans chaque réunion publique, l'Humanité fait un compte-rendu et le Libertaire fait aussi un compte-rendu. Donc on a trois points de vue qui sont légèrement différents, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'on voit très bien que il y a au début de la réunion une volonté d'imposer le point de vue du parti et de la part d'une cinquantaine de militants, alors d'une centaine de militants sur une salle de 1000 à 1500 personnes, de l'autre côté, d'une volonté de faire une bronca pour rendre la tenue de ce meeting, si ce n'est impossible, en tous les cas, difficile. Donc il y a plusieurs échauffourées qui se produisent, il y a au total trois bagarres jusqu'au moment où se produit la bagarre fatale, dans laquelle un certain nombre de coups de feu partent de la tribune, donc des gens qui étaient censés protéger la tribune, donc Train et quelques autres orateurs communistes, en direction de ceux qui font la bronca. Comme il y a déjà plusieurs bagarres, il se trouve que ce qui va permettre au Parti communiste et à la majorité de la CGTU de dire « bah non, vous voyez que c'est pas nous parce qu'on a des blessés dans nos rangs », comme il y a eu plusieurs affrontements, on constate que plusieurs militants du PC ont été également blessés. Mais l'intérêt, c'est comme on a accès aux archives de police, on se rend compte que les militants blessés étaient en fait en train... Les militants du PC qui étaient blessés étaient en fait, ont été blessés pour un, par exemple, dans le dos. Donc ça donne un certain nombre d'indications sur le départ des coups de feu et l'arrivée des coups de feu. Et puis, sans rentrer dans tous les détails, la police fait ce qu'on appelle un relevé balistique et les balles sont retrouvées dans le mur où se trouvait la minorité syndicale. Donc dès le 11, enfin dès le 12 au matin, il y a un certain nombre de réactions dans la presse. Comme on peut l'imaginer, les uns, enfin les minoritaires disent ben, nous on a certes porté la contradiction, mais en face ils étaient armés et ils nous ont tiré dessus sans autre forme de procès. Donc ça c'est la première chose, et puis la polémique va enfler au fur et à mesure pendant plusieurs jours. Et en même temps que cette polémique, donc les commissaires de police chargés de l'enquête, mandatés par un juge d'instruction, vont eux aussi conduire leur enquête. Alors, il y a un certain nombre de PV d'enquête qui sont, enfin de PV d'audition qui sont reproduites, et il y a une caractéristique assez amusante qui serait totalement impossible aujourd'hui, c'est de voir que aucun des militants, quelle que soit sa tendance, ne refuse de dire exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il s'agit pas, c'est une affaire interne au mouvement ouvrier, il ne s'agit pas d'aller dire qui a tiré ou qui est susceptible d'avoir tiré. Et donc, on a en même temps, dans le bouquin, j'essaie de montrer qu'en même temps qu'il y a les PV de police, il y a une polémique qui s'ensuit sur les responsabilités. Une polémique qui s'ensuit dans les responsabilités dans la presse de qui a tiré et qui a pas tiré, sans jamais d'indication de la personne des noms des personnes qui ont pu tirer. Il y a une première ambiguïté qui apparaît dès le surlendemain de la découverte des meurtres, de la mort de ces deux personnes, c'est que un des deux est clairement identifié comme un militant libertaire de vieille date, ayant déserté pendant la Première Guerre mondiale, vivant sous une fausse identité, étant un militant syndicaliste du bâtiment depuis de nombreuses années. Donc on a cette première personne qui est identifiée, et un deuxième militant qui était sympathisant libertaire, mais qui n'est pas militant en tant que tel. Et donc tout s'ensuit toute une polémique parce que en même temps, tout en étant sympathisant libertaire, le PC est allé voir sa compagne et elle lui aura dit qu'il était abonné à l'Humanité. Donc le Parti communiste cherche comme argument, enfin cherche à dire, mais vous voyez, s'il était abonné à l'Humanité, c'est qu'il était proche de nous. Or, plusieurs autres témoignages qui viendront par la suite indiquent pas l'exact contraire, mais en tous les cas, n'indiquent pas d'appartenance partisane de Nicolas Clot, ou d'inscription de Nicolas Clot au PC. Et donc, on arrive à un premier élément qui montre que le climat de tension demeure extrêmement fort, c'est que le 16 janvier, donc il y a obsèques des deux personnes, et on a d'un côté de Poncet et de l'autre côté de Clot, et on a deux cortèges séparés qui vont enterrer entre guillemets leurs victimes, le cortège des syndicalistes étant nettement plus fourni, étant accompagné de différents dirigeants syndicaux de toute obédience, alors que le cortège communiste semble nettement moins fourni, même d'après les échos de presse qu'on peut avoir. La polémique continue amplement pendant toute l'année 24. Alors, surtout et principalement par voie de presse interposée, donc c'est grosso modo à ce moment-là un affrontement entre le Libertaire quotidien À ce moment-là, il faut que je rappelle que le Libertaire était quotidien, alors avec un tirage relativement faible, hein, puisque c'était quelques milliers d'exemplaires, et une Humanité aussi quotidienne, mais elle a plus de 200 000 exemplaires, donc avec un léger déséquilibre dans le nombre de lecteurs. Donc cette polémique continue, d'une part, par voie de presse interposée et dans la CGTU, d'autre part. Dans la CGTU, ça devient important parce que pour un certain nombre de militants syndicalistes, il n'est pas question de continuer à militer avec des gens qui ont tiré sur d'autres militants ouvriers. Donc se pose dans la CGTU dès ce moment-là la question du départ d'un certain nombre de militants. Alors, je ne donne pas tous les résultats de l'enquête, parce que sinon vous n'allez pas lire le livre. Mais il se passe la chose suivante, c'est que alors une instance régulative en fait dans la CGTU qui s'appelle le CCN. Alors, le CCN, c'est en fait une réunion des principaux responsables à la fois locaux et fédéraux, donc de chaque corps de métier de la CGTU, enfin de chaque fédération professionnelle de la CGTU, décide qu'il va y avoir une commission d'enquête. Au moment où un certain nombre de personnes commencent à dire non, mais on ne va pas rester avec. L'expression utilisée par le Libertaire, c'est par exemple rompons avec les assassins. Il y a néanmoins une commission d'enquête qui est diligentée, une commission d'enquête qui aboutit à une conclusion, enfin deux conclusions en fait. Commission d'enquête où il y a quatre membres de la majorité et deux membres de la minorité, qui auditionnent un certain nombre de... Alors, malheureusement, ça, j'ai jamais pu accéder, je ne sais même pas si elles existent, j'ai jamais pu accéder au PV de cette commission d'enquête. Néanmoins, on a les conclusions. Et on a deux conclusions, oui, radicalement opposées. Peut-être pas tant que ça, en fait. Une première conclusion de la part de... Une première conclusion de la part de la majorité confédérale qui est de dire ce sont des provocateurs qui ont perturbé le meeting et ces provocateurs sont peut-être liés à la police. On s'arrête là, c'est donc provocation policière, l'élément classique en fait dans un certain nombre de rhétoriques militantes. Puis la deuxième conclusion qui est celle de la minorité confédérale qui est de dire on a entendu les mêmes personnes. Il se trouve qu'il n'y a pas une seule fois, et là on arrive à une conclusion commune sans qu'il y ait de rapprochement, mais une conclusion commune que fait l'enquête de police et que fait la minorité, qui est de dire un certain nombre de responsables, un certain nombre de militants ont tiré délibérément et intentionnellement sur la minorité après que le secrétaire général du parti, donc, qui était Albert Rhin, ait donné l'ordre de tirer pour faire taire les impétrants et donc pour mettre un terme à cette perturbation du meeting. Et à partir de ce moment-là, on peut arriver à une dernière conclusion sur le qui a tiré. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail. Par contre, ce qui pose un certain nombre de problèmes, c'est que ce n'est pas seulement des simples militants. On peut en avoir quelques profils, mais c'est aussi des responsables fédéraux qui ont participé au meurtre. Et normalement, la minorité attendait comme signe que une de ces personnes soit démise de ses fonctions. Tel n'a pas été le cas, puisque il se trouve que j'ai retrouvé dans d'autres archives à Moscou des lettres de la CGTU demandant si on pouvait l'accueillir quelques mois en URSS parce qu'il était... ils n'expliquent pas pourquoi, mais ils disent que ça aurait été très très bien. Alors, il se trouve qu'au même moment Parce qu'on est en début 1924, au même moment à Paris, il y a un certain nombre de responsables de l'Internationale syndicale rouge qui sont présents et qui, alors qui n'étaient pas à ma connaissance dans les, sur les lieux du meeting, mais qui savent parfaitement qui a fait quoi. Le militant en question ne fera jamais de séjour d'études en URSS, malgré le fait que, visiblement, le libertaire avait eu vent de cette histoire, avait proposé qu'il l'embauche dans la police politique soviétique, donc qui était la Tchéka. Donc on a cet ensemble d'événements que j'essaye de restituer à travers une enquête de police. Enfin, de police, qui est à la fois une enquête de police, une mise en rapport des différents journaux qui peuvent exister, et en essayant de tirer vers l'enquête policière, avec un dernier élément qui me semble assez important, qui est la mémoire qui a pu être portée de ces événements, puisque j'évoquais au début de mon propos les Mebikre qui avaient été témoins de ces. De cette scène. Et effectivement, alors on a ce que je laissais entendre au début, c'est enfin pendant l'exposé, c'est à savoir que un certain nombre de militants communistes vont dire c'est pas nous, c'est certainement une provocation policière de nouveau. Et les membres de la minorité, donc que ce soit Mépicré dans ses mémoires ou un autre militant anarchiste sur lequel j'ai. Enfin, non, un autre militant syndicaliste qui n'était pas anarchiste, mais qui était. Qui a longtemps collaboré aux libertaires, qui s'appelait Julien Le Pen, qui disent bah non, on sait exactement qui c'est et on sait qui a tiré, et la majorité confédérale n'a jamais voulu reconnaître quoi que ce soit. Et donc, on est confronté à deux types de deux mémoires qui sont complètement différentes, qui en fait évoquent deux conceptions du politique et du syndical qui sont elles-mêmes complètement différentes. La conception qu'on pourrait appeler syndicaliste traditionnelle et une nouvelle vision du politique qui s'incarne dans la majorité confédérale de la CGTU et puis dans la politique du parti communiste. Sur le plan long terme, donc avec est-ce que la violence révolutionnaire peut, enfin contre qui la violence révolutionnaire peut être tournée et quel est l'objectif de cette violence révolutionnaire. En l'occurrence, après la Grange aux Belles, il n'y aura plus réellement, à quelques exceptions près, mais vraiment très très rares, il n'y aura plus jamais de perturbation massive des meetings du Parti communiste par les libertaires ou par des syndicalistes. Voilà pour les principaux éléments de ce que c'est que meurtre à la Grange aux Belles.
Donc, pas d'identification certaine, donc pas de condamnation.
Alors, effectivement, dans l'enquête de police, il y a un certain nombre de trous. C'est-à-dire que les deux policiers qui sont chargés de l'enquête et le juge d'instruction se doutent de l'identité des tireurs. Enfin, au moins deux des tireurs, sauf qu'on est dans une enquête de police. Donc, pour une enquête de police, il ne faut pas seulement qu'il y ait des soupçons, il faut qu'il y ait des preuves matérielles. Or, il n'y a aucune preuve matérielle de quoi que ce soit. Et une des personnes est même dans le déni en disant bah non, moi, j'y suis pour rien, je n'ai pas tiré, c'est pas moi. Comme c'est une bagarre générale, personne ne peut prouver quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, on est dans. Des supputations, mais on n'est pas dans une preuve tangible en termes juridiques. Donc, ce qui se passe, c'est que l'enquête finit par faire plouf, et le juge d'instruction est obligé de conclure un non-lieu, puisqu'on n'a pas les éléments. Alors, l'autre aspect, c'est qu'on n'a pas toutes les notifications non plus. On a l'enquête de police, on a j'ai retrouvé quelques lettres du juge, mais il n'y a plus de, malheureusement, alors peut-être qu'un jour on le retrouvera, mais il n'y a plus malheureusement le dossier d'instruction qui semble, comme ça aboutit à un non-lieu, qui semble avoir été détruit il y a un certain nombre d'années.
Eh bien.
Voilà. Donc, et alors, dernière chose pour ce qui est de la mémoire du mouvement libertaire, ça a réellement, ça fait partie des, entre guillemets, alors peut-être pas des... Si, ça a été un, entre guillemets, un choc traumatique assez fort, puisque, bon, j'évoquais Mépicret qui en parle dans quand elle publie ses mémoires en 1979. Donc Julien Le Pen, pendant toute l'entre-deux-guerres, il revient régulièrement. Un certain nombre d'autres militants l'évoquent. Et puis, à partir des années 80, on a... Alors, c'est souvent la reprise, en fait, des mémoires de Mépicret, mais on a un certain nombre de... C'est une BD de Jean-Louis Van Van, par exemple, qui l'évoque dans ses mémoires. On a dans une autre bande dessinée sur Benoît, consacrée à Benoît Brochu, la même chose, c'est que l'événement est évoqué. Dans un autre petit ouvrage qui s'appelait Trajectoire du fascisme rouge, l'événement est également évoqué. Donc il y a une... si on pouvait faire un parallèle, c'est un peu un... l'expression est un peu grossière parce que ça n'a pas la même ampleur, mais c'est un peu un Kronstadt à la française, c'est-à-dire qu'un certain nombre de militants savent qu'ils n'auront pas affaire à des enfants de cœur en face d'eux et que c'est le Parti communiste, à partir de cette date-là, est prêt à n'importe quelle exaction contre les militants. Et c'est ce qu'on retrouvera. Donc, ces violences et ces interdictions de parole et ces actes, c'est ce qu'on retrouve, en fait, ce qui fait un des fils conducteurs des rapports, non pas de... Enfin, des rapports d'animosité profonde et de divergence plus que profonde entre communistes et anarchistes depuis... Alors, ça avait commencé avant avec ce qui se passait en URSS, mais ça vient de confirmer en France, et c'est ce qu'on retrouvera dans les journées de mai à Barcelone en 1937, ou dans un certain nombre, après, à une échelle plus réduite, mais de conflits qui peuvent exister, soit dans le mouvement syndical, soit dans des associations. Voilà pour l'essentiel.
Pour l'essentiel.
Des questions ?
Eh bien. Mais alors, est-ce qu'il y a eu d'autres historiens qui se sont penchés et qui ont fait des écrits sur...
Alors, pour les historiens, il y a des fois où l'événement est évoqué, mais personne n'avait réellement pris l'enquête. Alors, il y a un historien qui avait vu le dossier, mais qui en fait tout à fait autre chose sur la violence en politique. Mais c'est beaucoup plus sur l'utilisation des armes. C'est pas du tout sur cet affrontement en tant que tel. Les autres historiens, la plupart du temps, alors qui étaient plutôt de tendance communiste, ont gentiment mis sous boisseau en disant « Bon, il se peut que ce soit le Parti communiste, mais on n'est pas bien sûr. » Il y en a même qui réaccréditaient la thèse de la provocation policière. Donc il n'y a pas d'éléments concrets, matériels. Enfin, s'il y a des éléments concrets, matériels, mais il n'y a pas d'historien qui ait travaillé entièrement ce dossier. Bon, alors après, moi, c'est mes objections à moi qui faisaient que je rêvais un jour de pouvoir faire quelque chose dessus. Tant qu'on n'avait pas d'archives réellement, on ne pouvait pas en faire quelque chose. Et le fait d'avoir ce dossier me permettait quand même de confirmer un certain nombre d'hypothèses qui avaient pu être émises et puis d'en faire, enfin pas un livre, c'est pas un livre amusant du tout, mais de mettre en perspective et d'essayer de trouver une trame narrative qui puisse intéresser le plus grand nombre.
Voilà. Il y avait une question là-bas.
Il
y avait une question dans le public.
Je connais un petit peu cette période-là, du côté des espérantistes, de ceux qui étaient fondus pour l'espéranto à cette époque-là. Et comme dans toute la société mondiale, les espérantistes se sont retrouvés un petit peu partout. Et ça, c'est une époque, c'est une période juste après quand même, on peut dire après quand même, la révolution russe, donc de 17, hein, appelée la Révolution russe. On parle de 1924, c'est ça, dans ces eaux-là aussi. Pour moi, c'est tout de suite après, quoi, la Révolution russe. C'est même pas encore bien figé. Alors, entre les gens qui se disent nous, on est pour l'application, justement, de la Révolution russe, ce qu'on a appelé les communistes, quoi. Il y a ceux-là, donc... En France, la CGT, CGTU, hein, puisqu'on a parlé de tout ça. Là. Enfin, toi, Sylvain, tu as parlé de tout ça. Pour moi, ce n'est pas si démarqué que ça entre ceux qui sont tendance libertaire. Enfin, anarchiste, c'est une idéologie comme ça, mais libertaire, c'est quand même plus de mise en pratique, comme on fait ici. Hein. Donc, c'est ça, pour moi, libertaire. Et à ce moment-là, ce n'est pas si distinct, ça. Je le vois parmi les espérantistes. Celui qui a créé l'association où je suis, la ASAT, qui est une association créée en 1921. Il s'appelle l'Anti. Enfin, il s'appelle le jeune Adam, mais il dit l'Anti parce qu'il est anti, il est anti tout, quoi, voilà. Mmh. Et lui, il crée l'association en 1921. Il est foncièrement, c'est ce que les gens disent, mais moi je commence. Il est libertaire d'abord quand il apprend l'espéranto pendant la Première Guerre mondiale. Mais là, vraisemblablement comme ça, il est communiste, quoi. Il est pour l'application du marxisme et tout ça, vraiment des choses. Il veut du concret. Et alors, quand on crée une association qui s'appelle déjà Association Internationale Mondiale, c'est quand même déjà drôlement politisé. Hein. Dire que l'association elle est internationale, c'est quelque chose de très particulier. Qui déjà, pour moi, ne devrait plus concerner des gens qui se disent marxistes, parce que tout ce qui est fait quand même par le marxisme et puis le communisme après en application, c'est quand même international. C'est international, c'est déjà pas national. Alors lui, il crée ça. Alors quand on crée une association comme ça, et puis qu'on est très puissant hein, au niveau de son parler, de sa présentation des choses et puis tout, il a une équipe qui est autour de lui quand même. L'année d'après, il y a un congrès. Donc, il se crée pendant un congrès national d'espéranto, mais il crée l'association. Et l'année d'après, il y a un congrès. Et l'année d'après, c'est le premier congrès, après être le vrai congrès, il n'est pas là. Il est parti, il prend des contacts sur Saint-Pétersbourg et sur Moscou, et il va en Russie parce qu'il veut savoir... Alors c'est un faux thème en fait, il veut savoir si on va utiliser l'espéranto là-bas ou si on va utiliser l'ido. Il y a une autre langue d'un espéranto un peu amélioré qui vient de se créer aussi. Alors les communistes actuels, parce qu'il y a encore des marxistes, beaucoup, ils disent oui, il est allé là-bas parce qu'il voulait savoir si on allait utiliser cette langue-là ou cette langue-là. Non, en fait l'anti se déplace là-bas, il veut savoir qu'est-ce qui se passe là-bas réellement. En Union soviétique. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand il revient, alors donc, il y a un congrès ici, il n'en fait pas partie, parce qu'il a pris son voyage justement pendant le congrès que lui, il aurait dû diriger, même un peu. Il barre là-bas et il part 3 semaines. Voilà. Et quand il revient, il se fait tirer dessus par tout le monde, parce que tout le monde dit, voilà, Tu racontes ton voyage là-bas, ce qui s'est passé, comment tu as vécu, qui t'a rencontré, et tu fais un truc entièrement, primairement anticommuniste. Voilà. Mais lui, après, en 1934, il va réécrire des choses en disant, vous voyez, ce que je vous avais dit, je le dis toujours, et donc il a quitté le Parti communiste en France, puisqu'il était affilié aussi au PC, et voilà, il a fait son... Et c'est pour ça que moi, quand je vois ça, je pense que... C'était pas évident de faire. Alors là, ils se réunissent, effectivement, à la Grange aux Belles, qui est foncièrement d'un côté, et puis les autres de l'autre. Qui savait comment ça allait évoluer, tout ça, c'est très très dur. Hein. On ne peut pas maintenant se remettre dans le. Ou alors à l'historien, comme toi, sans doute, il faut aller dans les papiers, comme moi je fais avec l'association, je vais dans les trucs et puis je lis et puis je me dis bon bah celui-là, oui, celui-là il a été très... parce que dans le mouvement espérantiste le Comintern il est là quand même, il contrôle tout le Comintern, t'en as parlé du Comintern hein, l'international communiste, lui il va là-bas et puis quand il revient il dit le Comintern, il se bat avec le Comintern Et d'ailleurs, il y a un grand leader de l'espéranto qui est là-bas sur Moscou, quoi, et qui est en direct presque avec tous ceux qui ont dirigé l'Union soviétique, quoi. Et il se fait liquider lui-même. Lui aussi, il va se faire liquider par Staline. Staline, il liquide tous ceux qui connaissent Staline, il est liquide. Hein. Donc, lui, il se fait liquider aussi par Staline. Alors, voilà, c'est quand même une sacrée période. Et l'association qui a été créée donc, par lui, l'anti, là, le Comintern, il n'arrive pas à mettre la main dessus. Parce qu'il y a une grosse équipe en France, notamment. France, Hollande, voilà. Et puis, il y a quelques Français aussi qui sont là-bas, à Moscou, ou bien alors en Union soviétique, quoi, et qui font en sorte que Sad va être divisé en deux. Le mouvement espérantiste donc, du Comintern, lui, c'est lui qui fait la scission. On est 6 000 membres à ce moment-là. On est 500 maintenant hein, dans le monde. On est 6 000 membres à ce moment-là. Et c'est divisé à peu près en deux. Voilà. Il reste 3000 membres donc côté ouest, comme on va dire. Et puis là-bas, le Comintern, après, on n'a plus de liaison avec eux. Hein. Les autres, ils vont être complètement... ça va être quasiment fermé dans toute l'Union soviétique pour eux. Hein. Ils sont 3000 là-bas. Et ils gardent la caisse, évidemment. Ils gardent tout l'argent. Enfin, ça se restructure derrière. C'est pas un très gros problème, mais voilà. C'est le côté, pour moi, très très libertaire de l'anti, de ce qu'il a fait au niveau de l'association pour pouvoir continuer et puis évincer les autres. Quoi, ouais.
Alors, pour répondre à ce que tu dis sur la connaissance qu'on peut avoir de la situation en Russie, dès 1919 et plus encore en 1920, il y a un nombre de témoignages extrêmement importants qui paraissent dans la presse syndicale, dans la presse politique, qu'elle soit socialiste, anarchiste ou pas communiste, mais qui indique très clairement la nature de la répression, le nombre d'arrestations, avec des détails qui ne laissent pas prêter, qui prêtent pas à confusion. Par exemple, à un des congrès que j'évoquais, le congrès d'Orléans de la CGT de 1920, un des responsables de la CGT, donc qui sera majoritaire, pas de la CGTU, qui est Alphonse Merailles, me fait un état détaillé de la répression avec des informations de première main, parce que les informations lui viennent via un canal un peu particulier, elles lui viennent à la fois de Berkman et de Kropotkine. Quelques temps avant sa mort. Donc on a un nombre d'informations extrêmement important. Je prends un deuxième exemple au mois de juin 1921, donc au moment du congrès de Lille de la CGT, toujours, Sébastien Faure, nonobstant de tout ce qu'on peut dire sur Sébastien Faure par ailleurs, mais même malgré son... Enfin, même avec l'opinion négative que peuvent avoir un certain nombre de personnes sur lui, vu son comportement, qui est connu hein, à ce moment-là, vu son comportement, enfin, c'est les violences sexuelles qu'il fait sur les enfants. Sébastien Faure publie un grand article qui dure plusieurs semaines, qui s'appelle « Mon opinion sur la dictature », dans laquelle il explique exactement ce qui vient de se passer. Et on est juste après Kronstadt, et on a des informations, enfin, les gens à ce moment-là ont des informations sur Kronstadt. Je vais prendre un autre dirigeant qui, dès 1920 aussi, qui s'appelle Errico Malatesta. Malatesta, dès la fin de l'année 1920, dit maintenant un peu de clarté, ça suffit, on n'est pas révolutionnaires de la même manière, et la fin ne finit pas par justifier les moyens systématiquement. Donc les informations sont en connaissance de cause. Moi, ce qui me semble, c'est qu'un certain nombre de militants considèrent que l'échec de la grève générale, l'échec de toute tentative de mouvement révolutionnaire ayant échoué en 1920 en France, il bascule par souci d'efficacité dans le communisme. Et on a plusieurs exemples de libertaires qui écrivaient dans le libertaire, qui étaient des militants plus ou moins actifs, comme Herclay, Achille Herclay, comme Bélugue, Fernand Bélugue, ou comme... j'oublie le troisième, Jules Tolade, qui était un militant du bâtiment, qui disent très clairement, oui, on a été anarchiste, mais maintenant, par efficacité, pour faire la révolution, il faut rejoindre le camp du communisme. Après, ça pose un autre terme qui... à ce moment-là, peut-être que la question peut se poser uniquement en termes moraux, mais c'est est-ce que la fin justifie les moyens, hein? C'est cette question-là qui se pose, fin qui justifie les moyens, mais qui fait que dans le mouvement syndical, c'est la vision entre guillemets moscoutaire qui l'emporte. Comme dans une partie de l'internationale espérantiste, en disant bah, le centre de la révolution mondiale est là, ceux qui ont pris le pouvoir c'est les ouvriers en Union soviétique. Ça ne veut pas dire que ce soit vrai, mais c'est perçu comme ça, et à plusieurs reprises on a de toute manière il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'alternative possible, soit on est pour Moscou, soit on est contre. Tous ceux qui sont contre et tous ceux qui vont critiquer à un moment ou à un autre seront, et c'est ce qui arrive à Landy en 21, tous ceux qui sont contre basculent automatiquement dans le camp de la contre-révolution en donnant des arguments aux bourgeois, etc., etc., etc. Donc, en fait, je pense que dès 20-21, les choses sont claires. Après, dans le mouvement syndical, c'est un peu moins clair, parce que l'objectif d'une organisation syndicale est d'abord de défendre les intérêts matériels et moraux des ouvriers, des salariés, et donc les choses sont un peu moins claires, parce qu'il était encore possible, dans un certain nombre de cas, de participer avec des gens avec qui... Les uns et les autres n'ayant pas grand-chose à voir, mais cet événement de la Grange aux Belles clarifie en dernier ressort, met un terme à la possibilité de participer directement aux mêmes organisations, surtout compte tenu des réactions qui ont pu être faites dans le camp de la majorité confédérale. Je crois que là, il y a des lignes de partage qui sont assez... des informations qui permettent d'avoir un esprit à peu près clair sur ce qui se passe, et des lignes de partage qui font que tout n'est pas dans tout, et que le militantisme connaît aussi ses limites de fréquentation.
Oui, et puis bon, tous les gens qu'on envoyait en Union soviétique, finalement, quand ils revenaient... Il y avait beaucoup qui avaient changé la vie. Hein. On disait toujours, bon, un militant qui veut aller au pays de la Révolution, quand il revient, il est contre. Hein, du coup, bon, c'est les communistes hein, qui disent ça. Hein,
Alors, moi, pour le nombre de... C'est plus compliqué, en fait. Ça dépend de la période. Parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de militants qui partent dans les années 1920-1930. Ceux qui reviennent, qui sont déjà militants, ne reviennent pas désillusionnés. Ils reviennent, ils restent assez enthousiastes. Mmh. C'est après où les désillusions peuvent se faire sur un certain nombre de choses. Par contre, dans les militants qui n'étaient pas enthousiastes en partant, je vais prendre un congrès de l'Internationale syndicale rouge donc, de 1921. Augustin Souchy, qui est un des responsables de la Fédération libre des syndicats allemands, qui est plutôt d'obédience syndicaliste libertaire. Angel Pestana, qui est responsable de la CNT, ou Amedeo Borghi, qui est responsable de l'USI en Italie, donc l'Union syndicale italienne, qui est aussi d'orientation libertaire, reviennent en disant « voilà ce qui se passe, on pourrait multiplier Alexander Berkman, Emma Goldman, voilà ce qui se passe. C'est pas ce qu'on espère être la révolution ou le changement de société qu'on attend. Donc il y a dans les types de voyageurs, il y a ceux qui vont revenir avec la même illusion qu'ils avaient, ou la même volonté de croire, ou la même conviction de c'est en Russie que se fait la révolution. Et ceux qui ont déjà des doutes, voire des défiances, reviennent en se disant c'est pas ce qu'on attend. Après, il y a plusieurs cas de voyageurs qui vont y aller pour avoir des informations. Ça, c'est pour l'entre-deux-guerres. Après, effectivement, les choses changent après 1945, où un certain nombre de personnes qui iront en URSS se rendront compte, surtout après 1953, après la mort de Staline, parce que pour la période stalinienne, il y a peu de voyages encore. Les gens qui se rendent en URSS après 1953, beaucoup reviennent beaucoup plus hostiles que pendant l'entre-deux-guerres, où on a quand même très très majoritairement, sauf cas exceptionnel, si on prend un voyageur relativement connu qui est André Gide, qui fait un retour du RSS, André Gide, il était déjà mis en alerte, il avait déjà un certain nombre d'informations qui lui ont fait porter un regard critique, c'est-à-dire que cette dimension était déjà, enfin, la confiance qu'il y avait était déjà un peu entamée en fait. Donc, sinon, ceux qui veulent défendre le régime, le voyage ne fait que confirmer. Après, il y a un autre élément qui est qu'un certain nombre de ces militants qui partent en URSS sont des révolutionnaires professionnels. Alors, c'est une catégorie en histoire qu'on appelle les communitariens. C'est des militants qui, à un degré ou à un autre, travaillent pour les instances du mouvement communiste international et qui en sont parfaitement conscients et partisans.
Une question ?
Oui, tu en as déjà parlé, mais je voudrais préciser un petit peu sur l'impact que ça a pu avoir sur le mouvement syndicaliste. Tu en as déjà parlé, mais pour être plus clair, la question que je me pose, c'est, bon, pour aller très vite dans le courant syndicaliste révolutionnaire, il y avait eu des choix assez différents, notamment il y avait une volonté d'unité syndicale, ce qui avait un certain nombre de syndicalistes révolutionnaires qui sont restés à la CGT. Bon, mais c'est pas là le sens de ma question. Et puis arrive effectivement après la révolution russe, les bolcheviks, avec des méthodes bolcheviques qui n'étaient pas forcément connues par le mouvement syndical. Enfin, bon, je passe sur les détails. Création de la CGTU, comme tu l'as dit. Et il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important dans cette période-là. Et je voulais savoir c'est l'impact qu'a pu avoir cet événement. Ce qu'on peut dire que, pour aller vite, le courant Monat... Hein, sachant que Monat n'est pas passé à CGTU, son syndicat n'est pas passé, mais il n'empêche, les gens qui se reconnaissaient, c'est quand même un leader, je pense, y compris dans le bon sens du terme, le courant Monat, dans une certaine mesure, a fait alliance dans un premier temps avec les bolcheviks. Bon, je vais très vite, c'est historien, t'en sais plus que moi, mais est-ce que... Et après, évidemment, peut-être que... prise de conscience à la révolution russe, mais au-delà de ça, ils ont rompu cette alliance, mais est-ce que, je ne sais pas exactement dans la période, est-ce que cet événement-là a eu un importance sur ce que j'appelle le courant Monat dans la compréhension de ce que ça veut dire le bolchevisme dans le syndicalisme?
Pour le courant Monat, absolument pas. C'est-à-dire que quand on regarde les archives Monat, c'est même fou, c'est qu'il a tous les documents, il sait de quoi parlent les autres, et Monat et Rosmer et Godonech et un certain nombre d'autres ne changent pas en 1924. En tous les cas, c'est pas ce qui va les faire changer. Ce qui va les faire changer, alors c'est vrai qu'il y a une concordance calendaire qui est importante, ce qui va les faire changer, c'est que c'est pas eux qui vont avoir la majorité des postes à la direction, enfin en comité du directeur du PCE, qui devient le bureau politique, c'est-à-dire que c'est Train et quelques autres qui restent à la direction du parti. Et du coup, Monat, à la fin de... Enfin, un an après, va fonder la revue qui va devenir une revue très critique sur l'histoire du... Enfin, sur le système soviétique, qui est la Révolution prolétarienne. Avec, là où il faut faire attention, c'est que les premières années de la Révolution prolétarienne s'appelle Revue syndicaliste communiste, pas Revue syndicaliste révolutionnaire. C'est dans un deuxième temps, à partir de 1929, où le nom change et ils fondent la Ligue syndicaliste. Et là, ils reviennent à une orientation, on va dire, plus proche du syndicalisme révolutionnaire en défendant l'indépendance du syndicalisme. Mais Menat et le noyau de... Alors, non, même pas le noyau. Une partie des militants de la vie ouvrière ont participé du basculement. Je prends un article de Menat qui est à ce moment-là assez extraordinaire, en 1920, c'est dit on est pour, on est contre la révolution russe. Et il n'y a pas d'alternative. C'est seulement après où lui va commencer à être critique par proximité, notamment de Rosmer avec Trotsky. Donc Trotsky déjà commence à être mis à l'écart. Par proximité avec un certain nombre de dirigeants bolcheviques qui sont écartés, que lui-même va commencer à s'écarter. Mais ce n'est pas du tout sur la question de la Grange aux Belles, ce n'est pas du tout sur la question même du rôle du parti. Il y a une histoire au sein du parti qui est avant les fractions, donc qui sont amenées à diriger le mouvement syndical, enfin le parti est amené à diriger le mouvement syndical par des fractions. Avant, ça s'appelle la commission syndicale centrale. Menat n'en est pas le secrétaire, mais il y siège très régulièrement. Donc il a joué exactement le même rôle que les autres. Ce qu'il y a, c'est que comme il est devenu critique à partir de 1925-26, il y a une espèce de statut du commandeur autour de Menat, parce qu'il a cru, mais il s'est trompé. Alors comme il s'est trompé relativement tôt, ça passe plus facilement que d'autres. Mais il y a cette même ligne politique qui est tenue par Menat pendant un certain nombre d'années, et c'est effectivement... Enfin, là, il n'y a pas de différence. Après, il y aurait même, tactiquement, dans ce qu'a fait Menat, il y a un certain nombre de points qui seraient à réanalyser. Mais là, ça nous emmène beaucoup trop loin. C'est toute la question du pacte. Donc là, je ne vais pas développer maintenant. Mais dans la croyance, entre guillemets, dans le système soviétique, Menat, avant de rompre sur des points secondaires, partage l'opinion de celui à qui transmet le flambeau, par exemple, à Gaston Moumousseau. Sauf quelques petits points stratégiques secondaires, enfin tactiques du coup, secondaires, ils sont sur la même position politique. Hein. Ça, c'est... En fait, il y a eu tout un phénomène... qui se comprend, hein, qui est un phénomène de reconstruction autour de la personnalité de Menat, parce qu'il faisait partie des vieux, un peu la statue du commandeur qui le rendait intouchable, alors que quand on regarde, la statue du commandeur, il a commandé, justement, mais pas forcément de la même... Enfin, pas avec l'espèce d'auréole qui a été recréée après.
Je ne sais pas si on a le temps de poser une autre question. Je ne sais pas quelle heure il est là.
C'est oui, bon. on a le temps là. C'est bon. Tu peux encore poser une question.
À mon avis, la réponse est plus simple, mais je pose quand même la question. Par rapport au courant Pierre Bénard, on va dire, qui est resté fidèle au syndicalisme révolutionnaire, etc., et donc qui va déboucher sur la création de la CGT-SR, syndicaliste révolutionnaire, est-ce que ça a été un élément je pense que lui, déjà, en amont, il avait envie de plus faire d'alliance avec les bolcheviks et de faire quelque chose, mais est-ce que ça a quand même été un élément, soit pour lui, soit pour le courant qu'il représente, important?
Oui, c'est un élément important, puisque, je n'avais pas le temps d'expliquer tout à l'heure, c'est que les libertaires, en fait, quittent la CGTU, les libertaires et des syndicalistes révolutionnaires quittent la CGTU à la fin de l'année 24, enfin, au cours de l'année 24 et à la fin de l'année 24. Ils fondent dans un premier temps ce qu'on appelle l'US, l'Union fédérale des syndicats autonomes. Union fédérale des syndicats autonomes qui a un grand débat en son sein entre est-ce qu'on crée une troisième CGT, donc ce qui va devenir la CGT-SR, ou est-ce qu'on rejoint la CGT, parce que dans la CGT il y a quand même beaucoup plus de syndiqués et on a quand même besoin de faire du syndicalisme et pas juste avoir des petits groupes affinitaires. Et donc la réponse est, mais alors avec des effectifs extrêmement réduits, hein, la Fédération du bâtiment à cette période-là est passée de plusieurs dizaines de milliers d'adhérents à moins de 9000 adhérents, pour prendre cet exemple. Avec des effectifs extrêmement réduits, parce qu'il y a toute une partie qui avait abandonné plus ou moins le militantisme, la majorité, mais une très courte majorité, choisit de créer la CGTSR au Congrès de Lyon de 1926. Mais il y a une très forte minorité, hein, ça se joue à trois voix, à trois syndicats d'écart, il y a une très forte minorité qui dit « ça sert à rien, on va se retrouver ». Après, c'est les mauvaises langues qui parlaient de la CGT en SR en disant « c'est la CGT sans rien ». Après, il y a eu vraiment une double scission, en fait, en disant « qu'est-ce qu'on fait ?» et en sachant qu'en plus, pour compliquer les choses, il y a des unions locales qui sont restées dans l'autonomie. Par exemple, l'union locale du Havre, qui était assez forte, qui avait plusieurs milliers de membres, a dit « on choisit ni l'un ni l'autre, nous on reste autonome et on fait notre truc dans notre coin ». Donc cet événement a provoqué une scission dans le mouvement syndical, minime, parce que les gens individuellement, enfin les militants se sont individuellement soit détournés du militantisme, soit on dit c'est pas la peine, on reprend pas notre carte. Et ils ont été remplacés et supplantés par un certain nombre d'autres militants plus jeunes qui, eux, sont rentrés mais qui ont adhéré au modèle d'organisation que proposaient les bolcheviks.
Oui. Je voudrais, sauf s'il y a une autre question de la salle, là. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a eu d'autres événements comme la Grange aux Belles qui ont été occultées dans l'histoire tentatives comme ça de descendre des militants qui c'est en vie une période quand même
alors non, il n'y a pas autant. Il y a une fois à Lyon où ça a failli se terminer manière, en 1927, je crois. Il y a quelques fois où les libertaires auraient bien aimé venger de la Grange aux Belles un peu de la même manière. Donc, ça n'a jamais atteint ce degré-là. Après, l'autre chose auquel il faut penser, c'est qu'on est quand même dans l'immédiate après Première Guerre mondiale, qu'il y a un climat de violence qui règne, qu'un certain nombre de militants ont des flingues sur eux régulièrement et que c'est beaucoup plus... Enfin, le climat de violence est beaucoup plus important en 1924 qu'en 2024. Hein. Et de violence politique, au moins. Et que l'usage des armes à feu n'est pas quelque chose d'impensable. Je vais prendre un exemple d'un autre militant qui est un peu connu. Il s'appelait Maurice Thorez, donc c'est celui qui va amener diriger le Parti communiste. Il est arrêté, il y a un contrôle de police chez lui dans les archives. Il est arrêté, il a deux flingues de Browning chez lui. Donc l'usage des armes et la violence, enfin pas systématiquement la violence par arme à feu, mais le fait d'avoir des armes est quand même quelque chose d'extrêmement fréquent à cette période-là. Donc ceci explique aussi cela. Hein. On est dans l'après-première guerre mondiale et le climat de ce qu'on appelle de violence ou de brutalisation de la société demeure, et de militarisation en quelque sorte de la société, demeure assez, assez fort.
S'il reste un peu de temps, moi j'avais une question au niveau des adhérents de base, avec plein de guillemets ce terme-là, qui était déjà assez déboussolé, j'imagine, par le fait déjà qu'il y avait deux syndicats. Quelle information ils ont eue, ce qu'on peut savoir, c'est peut-être pas facile. Comment les militants de base ont réagi ? Est-ce qu'il y en a qui croyaient, ce qu'on disait dans l'IMA, dans le Libertaire, et d'autres qui étaient désemparés ou qui ne savaient pas ? Est-ce que tu as une idée, si tu veux, sur l'impact au-delà des militants, au courant, etc.
Grosso modo, c'est difficile de dire l'impact. Grosso modo, la thèse de la majorité confédérale est acceptée. Par la majorité des militants. C'est-à-dire que ça ne pose pas, on prend les congrès suivants, enfin pas les congrès, mais les réunions suivantes, ça ne pose pas de problème. Et on prend les congrès départementaux qui se tiennent après les événements de la Grange aux Belles. Pour la majorité des militants, ça ne pose pas de problème. Mais ça renvoie à ce que j'expliquais. Alors, je vais prendre deux autres chiffres. Donc, je reprenais tout à l'heure la différence entre le Libertaire quotidien et l'Humanité. On est quand même dans un rapport de au mieux 1 à 15 pour l'Humanité. Si on prend la bataille syndicaliste, donc qui est l'hebdomadaire de la minorité confédérale et la vie ouvrière, on est aussi dans un rapport de 1 à 15 dans les tirages. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que globalement, les militants préfèrent la vie ouvrière que la bataille syndicaliste, et que deux, ils partagent globalement... et que trois, alors là, si on était, mais ça, je n'ai aucun moyen de le prouver, mais trois, ils disent, les anards nous ont fait chier, on leur a tiré dessus, et c'est bien fait pour eux. Hein. C'est, si on va jusqu'au bout de la logique, sinon, ils auraient eu des doutes. Et quand on regarde, il y a deux ou trois témoignages de militants de base en 1924, ils accréditent au mieux la thèse de la provocation policière. De temps en temps, ils disent pratiquement, on a eu raison. Il y a un accord global. Hein. Au départ, j'aurais eu tendance à dire oui, mais le rôle des fractions ou de la commission syndicale a été très important. Il y a un moyen de croiser par les comptes rendus que les policiers peuvent faire des congrès au niveau départementaux et fédéraux. Il y a un accord global de la majorité des militants pour soutenir la ligne du parti, la ligne de la CGT.
Voilà, en gros, le rapport de force n'était pas là encore en notre faveur. c'est dommage de terminer sur ça, mais je vais quand même vous rappeler que Sylvain Boulouk ne vous a pas tout dit, et que pour savoir ce qu'il ne vous a pas dit, vous avez quand même la possibilité d'aller voir la suite dans son livre « Meurtre à la Grange Aubelle », quand les communistes flinguaient les anarchistes. Et d'ailleurs, la photo de couverture,
c'est les locaux de la Grange Aubelle. Alors en fait, la photo est un peu plus ancienne que les locaux de 1924, puisque c'est encore maison des fédérations, donc c'est avant la Première Guerre mondiale, parce qu'on n'avait pas de photos. L'éditeur n'a pas trouvé de photos libres de droit après la Première Guerre mondiale.
Voilà. Alors bien sûr, ce livre est en vente là, sur place, ici, même si vous voulez vous le faire dédicacer, il n'y a pas de problème. Alors, je te remercie d'avoir fait ce partage-là. Je te rappelle quand même que tu ne nous quittes pas, puisqu'on va enchaîner après une petite séquence musicale. On va pouvoir... je pense qu'il y a une dernière intervention.
Une précision. Sylvain a été reçu sur Radio Libertaire dans l'émission Trou Noir. Et vous pouvez trouver dans le podcast Trou Noir Radio Libertaire les échanges que nous avons eus et qui complètent ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà,
comme quoi sur Radio Libertaire, c'est toute une bibliothèque de culture politique. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent avoir le livre, on en a quelques-uns là que tu feras un plaisir de dédicacer, n'est-ce pas ?
Bien évidemment.
Bien sûr, là. D'ailleurs, tu pourras même dédicacer le mien. Voilà. Et donc, juste après la pause musicale, pour parler de comment le groupe Kropotkine, qui a perdu un de ses parrains, Michel Ragon, comment on met en place le 19 octobre une journée d'hommage à Michel Ragon qui on pouvait pas ne rien faire au groupe Kropotkine. Donc on se retrouve dans quelques minutes après la pause médicale.